Place publique.
Dimanche 24 septembre, les citoyens suisses sont appelés aux urnes pour décider de l'avenir de leur système de retraite. La réforme prévoyance vieillesse 2020 doit permettre de garantir le financement des rentes AVS et du deuxième pilier pour la prochaine décennie. Un financement, vous le savez, menacé en raison notamment du vieillissement de la population et de l'arrivée d'un nombre important de rentiers issus de la génération du baby-boom. De plus, l'espérance de vie ne cesse d'augmenter. Enfin, les rendements des capitaux sur les marchés sont faibles, ce qui met les caisses de pension sous pression. Alors pour contrer ces difficultés, la réforme prévoyance 2020 propose plusieurs mesures dont les principales sont le relèvement de l'âge de référence pour la retraite des femmes de 64 à 65 ans, la hausse de la TVA de 0,3 points, une baisse des rentes du deuxième pilier, l'augmentation des nouvelles rentes AVS de 70 francs par mois. Il y a bien sûr d'autres mesures en jeu, on va en parler. On vous propose un débat spécial avec 4 invités en direct.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir à tous. Je vous le disais, 4 invités sont avec nous pour débattre de cette réforme de la prévoyance vieillesse 2020. Dans le camp des partisans, nous accueillons Jacques-André Maire. Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir, conseiller national socialiste neuchâtelois, et à vos côtés Roberto Pérez. Bonsoir.
Bonsoir.
Directeur régional de Pro Senectute Bill Bien-Zeeland. Et dans le camp des opposants, nous accueillons Guy Teria. Bonsoir.
Bonsoir.
Secrétaire suisse de l'Avivo, organisation qui défend les intérêts des retraités, membre de l'Alliance de gauche jurassienne CSPOP pour Combat Socialiste, Parti Ouvrier Populaire. Et nous accueillons aussi Manfred Buller. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller national UDC bernois et vous entendrez tous également 2 représentants de l'économie qui ont sur la question un avis opposé. Alors on démarre ce premier tour de table avec un constat unanime, il faut agir pour garantir la stabilité de notre système de retraite. Toute la question est de savoir comment et quand. Le Conseil fédéral et une majorité de l'Assemblée fédérale sont d'avis qu'il faut accepter cette réforme, sinon la situation va s'aggraver. Vraiment, Jacques-André Maire, on ne peut plus attendre.
Alors on pourrait attendre, mais on serait dans une situation encore plus grave dans quelques années et on n'aurait vraiment plus le choix, il faudrait prendre des mesures drastiques. Là on a la chance de pouvoir anticiper quelque peu et de pouvoir construire, c'est ce que nous avons fait au Parlement, un compromis. Alors comme tout compromis, c'est jamais idéal, bien sûr qu'on n'est jamais content à 100%, mais on arrive, je crois, vous l'avez dit dans l'introduction, à sécuriser le niveau des rentes, à le garantir jusqu'en 2030 au moins, et puis surtout, bien sûr, de garantir un financement sain de tout le système de l'AVS. Et puis, il y a quand même un autre élément qu'il faut mentionner, c'est du côté du deuxième pilier. Là, on assiste depuis plusieurs années maintenant à des rendements des capitaux que nous plaçons dans notre deuxième pilier qui sont extrêmement bas, voire négatif dans certains cas. Donc là aussi, il s'agit d'adapter ce fameux taux de conversion, c'est-à-dire le taux qui fait qu'à partir d'un capital, par exemple, de 100 000 francs, on va avoir, si on a un 6 800 francs de rente annuelle, et on n'arrive plus, enfin les caisses de pension n'arrivent plus à le payer aujourd'hui intégralement, donc elles font pression pour baisser ce taux à 6%, c'est-à-dire 6 000 pour 100 000 francs.
Le gâteau reste le même, mais on diminue les tranches que chacun reçoit. Manfred Buller, on vient de l'entendre, le système est sous pression. Est-ce que ce n'est pas téméraire de renvoyer une réforme dans la situation actuelle, Alain Berset, on a pu le lire encore aujourd'hui, avertit les jeunes que si rien n'est fait, il ne sera plus possible dès 2030 d'assurer toutes les rentes.
Bon, je crois que effectivement la nécessité d'assainir durablement l'AVS d'une part et le deuxième pilier d'autre part ne fait pas débat. C'est un constat qu'on peut faire. L'AVS est en train d'arriver dans les chiffres rouges. On a eu des premiers déficits ces dernières années. Elle est peut-être encore juste à l'équilibre en ce moment, mais avec l'arrivée à la retraite des baby-boomers nés dans les années 50-60, la situation va s'aggraver. Donc il faut prendre des mesures, ça je crois qu'on est d'accord. Maintenant, la réforme qui nous est proposée, elle est mauvaise, elle est déséquilibrée et surtout elle pêche avec des erreurs de système en prétendant mélanger les deux systèmes de l'AVS d'une part et du deuxième pilier, et ça c'est des erreurs qui sont à nos yeux suffisamment fatales pour rejeter cette réforme et se donner le temps d'en faire une meilleure.
Une réforme mal ficelée, c'est ce que l'on comprend en écoutant Manfred Buller. Roberto Pérez, directeur régional de Pro Senectute Bien-Zeeland, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu attendre? C'est vrai, même pour les gens que vous défendez, les retraités, il y en a certains qui vont perdre en pouvoir d'achat. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu un paquet plus avantageux pour ces retraités, justement?
C'est un compromis qui a été trouvé au Parlement. Et moi, je pense effectivement qu'il y a urgence. Il faut agir. En 2030, l'AVS, si on continue comme on est actuellement, aura 12% des dépenses. Donc le fonds va fondre. Et ça fait déjà 20 ans que cette AVS existe telle qu'elle est. Elle n'a pas été réformée. Et il faut vraiment prendre les choses en main, au moins pour actuellement stabiliser le niveau des rentes. Et puis permettre, avec cette réforme, de chercher après, dans le futur, des solutions plus optimales.
Guy Theuria, cette réforme, finalement, elle est issue d'un compromis. On a l'impression que si elle ne passe pas, ce sera des mesures autrement plus musclées qui risquent d'être imposées par une majorité.
Effectivement, moi je pense que ce projet n'est pas bon. Le mythe que l'AVS va mal, c'est faux. Il est toujours entretenu, bien sûr. Depuis les années 70, on dit que l'AVS est en déficit, alors que c'est pas vrai. Et de plus, le pourcentage, si on regarde le coût global de l'AVS exprimé en pourcentage du produit brut intérieur, il n'a pratiquement pas augmenté. Et concernant les baby-boomers, y aura un problème pendant cette période-là, il suffit d'augmenter un tout petit peu les cotisations de l'AVS. Par contre, le deuxième pilier qui va mal. Il va mal parce qu'il a été, d'une part, très très mal géré, il n'est pas contrôlé par l'État, on laisse les gestionnaires des caisses de pension s'en occuper, ils en font tout sauf du social. Ils font des affaires sur le deuxième pilier et c'est ce deuxième pilier qu'on veut, avec le deuxième pilier qu'on voudrait faire lancer un cheval de Troie contre l'AVS. C'est pour ça que une des raisons pour lesquelles on est contre, je suis contre, et l'AVS, la Vivo ainsi que Combat Socialiste Pop contre ce projet.
On voit la gauche est divisée, Jacques-André Maire.
Oui, alors j'aimerais juste quand même préciser une chose. Depuis 2014, les prestations versées par l'AVS ne sont plus couvertes par les cotisations. Dans le système AVS, c'est les cotisations de l'année qui sont reversées sous forme de prestations. 2014, 320 millions de manque, 579 millions en 2015, 766 millions en 2016, et on pense dépasser les 600 millions de découvertes pour 2017.
Oui,
alors on va prélever,
vrai,
on va prélever, si vous permettez, on
vous
va prélever le complément dans le fond. Le fonds, il va s'éteindre en 2030 si on prélève à ce rythme-là. Il faut en être bien conscient, d'où la nécessité de réformer.
Place publique. Gabriel Devecq.
De retour dans Place publique, émission spéciale votation prévoyance 2020, un débat sur cette réforme soumise au vote le 24 septembre. Quatre invités sont toujours avec nous. Pour assurer le financement des retraites, la réforme va coûter de l'argent, mais elle prévoit aussi des compensations. Le fruit, on l'a dit, d'un consensus, on peut le dire, durement acquis malgré tout. Guy Theuria, pour vous, cette réforme se fait sur le dos des femmes?
Oui, bien sûr. Donc, les femmes travailleront une année de plus. Elles paieront des cotisations en plus aussi pour la LPP. Elles vont donc aussi pour l'AVS, naturellement. Et tout ça, alors qu'il y a encore plein d'inégalités, qu'elles soient salariales, elles ont encore aussi la double charge de travail à la maison. C'est inadmissible de faire ça sur le dos des femmes.
On sait que les femmes touchent quand même l'AVS plus qu'elles ne touchent le deuxième pilier. Est-ce que c'est finalement, avec cette rente qui va être augmentée de 70 francs, pas une mesure qui va plutôt les rendre bénéficiaires?
Oui, mais c'est 70 francs. On sait très bien que c'est un sucre et que ça va coûter beaucoup plus cher en cotisation. Et actuellement, et aussi au niveau de l'AVS, les femmes gagnent au niveau de l'AVS 37% de moins que les hommes. Et donc, ce n'est pas ces 70 francs qui vont faire la différence. Au niveau du deuxième pilier, elle gagne jusqu'à 63% de moins. C'est exclu de faire ça sur le dos des femmes. C'est exclu.
Jacques-André Maire.
Alors, j'aimerais juste préciser à propos des femmes qu'il ne faut pas oublier qu'actuellement, 500 000 femmes actives en dehors de leur domicile, n'ont pas accès au deuxième pilier parce que le seuil d'accès est trop élevé. Et dans la réforme, il y a là un élément très important pour les femmes, pour améliorer ces conditions, c'est l'accès au deuxième pilier qui doit être abaissé, qui permettra à ces femmes, mais pas seulement aux femmes, à tous les petits revenus, et là j'aimerais aussi m'adresser en particulier à mon collègue Buller, qui défend d'habitude les paysans, le monde paysan soutient cette réforme parce que beaucoup de paysans n'ont pas non plus accès au deuxième pilier.
Oui, mais l'Union suisse des paysans, elle va coûter cher aux femmes, elle va
non,
coûter...
C'est quand même
un pourcentage important sur le salaire, et quand on a déjà un petit salaire, encore de se voir ponctionné par une cotisation LPP, c'est beaucoup, et ça compte pour une femme, pour un salaire ou un travailleur à bas salaire, 100 francs, 120 francs par mois, ça compte.
Mais c'est de l'argent qu'elle récupérera à la retraite, et ça c'est fondamental,
oui,
parce que c'est là que la situation devient très difficile.
On ne va pas récupérer, parce que le deuxième on avait déjà une baisse du taux de conversion, et on aura encore une baisse de conversion, et en fait ce qu'on a vu les 10 dernières années, c'est que la rente LPP baisse chaque année.
Pas chaque année. Le taux de référence, il est fixé dans la loi, il va rester, tant qu'il n'y aura pas de nouvelle réforme, à 6% sur la part obligatoire, c'est-à-dire jusqu'à un revenu de 85 000 francs par année, ce qui n'est pas rien.
Il y a beaucoup de pensions qui ont déjà un taux de conversion de 4%.
Oui, c'est pour la part surobligatoire, madame, au-delà de 85 000 francs. Donc ça, c'est des gros revenus qui peuvent se permettre de gagner un peu moins.
Roberto Pérez, vous voulez réagir ?
Oui, on a entendu parler d'un petit sucre, 70 francs par mois, un petit sucre. Prosenectute s'occupe du bien-être des personnes âgées, et environ une personne âgée sur 8 vit dans la précarité. 70 francs par mois, ça représente 840 francs par année, ce qui représente quand même un budget, on va dire, pour une personne seule, c'est l'alimentation d'un mois.
Mais les retraités vont pas le gagner, monsieur, et en plus, ils paieront de la TVA en plus.
Les retraités actuels ne vont pas toucher cette rente supplémentaire, Roberto Pérez.
Oui, effectivement, mais la TVA qui est augmentée de 0,3% ne sera augmentée qu'en 2021, et ça, c'est un effet en fait qui fait que tout le monde va participer pour le financement de la VS.
Manfred Buller, cette rente supplémentaire de 70 francs, qui pour certains est un petit sucre, pour d'autres c'est une aide essentielle, pour vous, elle passe mal?
Oui, elle passe très mal pour plusieurs raisons. D'une part, c'est un montant relativement modeste. Si on veut vraiment aider les retraités, déjà, il ne faudrait pas créer deux classes de retraités, c'est-à-dire les actuels qui ne toucheront rien mais paieront de la TVA en plus, donc ils seront perdants sur les deux tableaux. Et puis la deuxième classe qui serait les nouveaux retraités qui toucheraient ce supplément, mais qui devront évidemment aussi le financer pendant leur vie active, d'une part, avec des cotisations salariales plus élevées, et puis avec la TVA également. La faute majeure dont je parlais en introduction, c'est de vouloir compenser, c'est ce qu'on nous vend dans ce projet, les pertes dans les rentes du deuxième pilier, puisqu'on baisse le taux de conversion, ça a été dit, avec ces 70 francs. Et ça, c'est une faute majeure, parce que les deux systèmes fonctionnent de manière totalement différente. Le deuxième pilier, c'est une épargne personnelle, on vous prend de l'argent, oui, sur votre salaire, vous ne l'avez pas, c'est une déduction, mais vous retrouvez cet argent lorsque vous prenez votre retraite, puisque ça va sur votre compte personnel, ce n'est pas réparti chez tout le monde, contrairement à l'AVS, qui est un système totalement solidaire, où tout le monde paye pour tout le monde, et tout le monde paye sur l'entier de son revenu. Il n'y a pas de plafond. Quelqu'un qui gagne 10 millions, il va payer des cotisations sur 10 millions par année. Et puis, il ne touchera pas plus que la rente maximale, qui est de 2 300 ou 400 francs actuellement. Donc, c'est un système extrêmement solidaire, et on veut le mélanger, le coupler avec un système qui est individuel, qui repose sur la responsabilité de chacune et de chacun. Et ça, c'est une erreur fondamentale.
Jacques-André Maire, mélanger les deux piliers qui sont de nature différente, c'est finalement dommageable et mal conçu. C'est une faute, selon Manfred Buller.
J'aimerais juste revenir sur la différence entre les retraités actuels et les futurs retraités. Il ne faut pas oublier que les retraités actuels ne seront pas touchés par la baisse du taux de conversion. Le taux de conversion va rester à 6,8 pour eux, d'où la différence qui est faite pour la compensation par les 70 francs. Maintenant, pourquoi avoir compensé sur le deuxième pilier ? Eh bien, sur le premier pilier, pardon, c'est effectivement, comme Manfred Buller l'a très bien dit, parce que le système est beaucoup plus solidaire dans le premier pilier. Donc, si on veut améliorer la condition des petits revenus au moment où ils arrivent à la retraite, c'est bien sur le premier pilier qu'il faut agir. On avait essayé de le faire à gauche, hein, avec l'initiative AVS+, on a malheureusement perdu, mais là je dirais qu'on arrive à récupérer un peu de ce que nous voulions faire. Puis juste sur l'augmentation de la TVA, il faut quand même pas exagérer, 0,3% de plus depuis 2021, c'est 30 centimes pour 100 francs d'achat de produits non nécessités.
Oui,
pour les produits de première nécessité, si vous permettez que je termine, les produits de première nécessité, 10 centimes pour 100 francs d'achat. 10 centimes pour 100 francs d'achat.
La TVA est un impôt antisocial. Et
oui, mais on ne va pas le remettre en question aujourd'hui à l'aide, si, avec la réforme de la prévoyance.
Dans ce projet PVE 2020, bien sûr que si.
À ce propos-là, peut-être aussi pour les retraités modestes, j'aimerais quand même ajouter que d'augmenter les rentes à AVS pour les soutenir dans une proportion de 70 francs, c'est quelque part un peu faire illusion, parce que les vrais retraités modestes qui n'ont que l'AVS et pas de deuxième pilier ou pas d'épargne, ils ont la plupart du temps des prestations complémentaires. Et ces prestations complémentaires, elles complètent l'AVS jusqu'au seuil de ce qu'on appelle le minimum vital, qui permet de payer son loyer, son assurance maladie, et de manger et de s'habiller, en gros, pour résumer brièvement. Et puis, si la rente AVS augmente, on a simplement les prestations complémentaires qui vont diminuer d'autant, parce que le minimum vital va rester le même. Et donc, c'est une illusion, un petit peu, que de faire croire aux gens qu'on va améliorer leurs conditions, en particulier les plus modestes, ça ne sera pas le cas.
Roberto Pérez, apparemment, il y a une inquiétude pour une catégorie de retraités que la situation va empirer avec cette réforme.
Alors c'est bien juste que, comme a dit Monsieur Buller, effectivement pour les gens qui touchent actuellement les rentes, ça va pas changer, parce que même après, si les gens qui touchent les prestations complémentaires, ces 70 francs sont intégrés dans le revenu complet et sont calculés, donc seront déduits des prestations complémentaires. Mais au moins à ce niveau-là, on arrivera donc à garantir et assurer un niveau des rentes équitable, enfin stable.
Manfred Buller, on a l'impression que, à part certaines mesures, dont celle dont vous avez parlé, celle de l'augmentation de cette rente de 70 francs, de cette rente AVS, il y a beaucoup de points que réclame la droite qui sont en partie concrétisés. Qu'est-ce qui vous fait refuser cette réforme ?
Bah, je crois que c'est vraiment cette erreur fondamentale qui veut mélanger les deux piliers, j'en ai parlé, mais aussi le fait qu'on prétende assainir l'AVS qui en a besoin. C'est une réalité, même, je ne veux pas faire de l'alarmisme gratuit, mais c'est une réalité qui nous tombe dessus maintenant. Et on prétend assainir l'AVS alors qu'on dépense 1 milliard à terme, 1 milliard 400 millions par année de plus avec ce bonus AVS. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Lorsqu'on doit se serrer la ceinture et moins dépenser, on ne dépense pas plus. On cherche précisément la manière d'assainir la caisse, soit avec des recettes supplémentaires, soit avec des dépenses qu'on diminue. Mais là, on demande un effort aux femmes en les alignant à 65 ans, une année de plus à travailler. Ça permet d'économiser à peu près 1 milliard 200 millions. Et puis, on les dépense de l'autre main avec l'augmentation des rentes AVS de 70 francs, ça me paraît vraiment un peu incongru.
Vous me permettrez quand même un petit peu de sourire en entendant le discours de l'UDC, hein, qui défend les petites gens, qui défend les femmes tout à coup. L'égalité salariale, Mme Thuriat l'a bien dit, elle est très loin d'être atteinte. Chaque fois qu'on fait des propositions au Parlement pour essayer d'aller vers l'égalité salariale, qui combat ces mesures, c'est l'UDC, c'est la droite dure, c'est celle qui aujourd'hui combat la réforme. Ça me fait quand même un peu sourire au niveau de manque de cohérence. J'aimerais quand même dire une chose, c'est que l'objectif, on l'a dit au début de ce débat, l'objectif c'est de garantir le niveau des rentes jusqu'après 2030. Donc les mesures qui sont prévues, en particulier cette compensation dans l'AVS, c'est justement pour ça, pour garantir des rentes décentes aux petites gens, pour garantir le niveau actuel de vie.
Guy Thuriat, on parle de 13 ans, on parle d'assurer les rentes pour la prochaine décennie. Est-ce que vraiment c'est à tel point inacceptable ?
À mon avis, ce n'est pas par ce projet qu'on peut arriver à garantir ces rentes. Il faut plutôt aller vers le projet d'intégrer de petit à petit le deuxième pilier dans le premier pilier. Parce que, et comme ça renforcera l'AVS, puisque c'est l'objectif, hein, de cette réforme. Et voilà, donc il y aura un projet d'initiative qui sera lancé dans ce sens-là, et je pense que là il faudra remettre l'ouvrage sur le métier et puis réfléchir autrement.
On sait qu'en Suisse, l'ouvrage sur le métier c'est très compliqué, hein, avec des intérêts contradictoires. On l'a vu quand des réformes essayaient de s'attaquer à un pilier ou à un domaine en particulier. Jusqu'à présent, c'était un échec. Est-ce que vous, de manière réaliste et pragmatique, vous n'auriez pas intérêt à adoucir un petit peu, à arrondir les angles?
Mais peut-être qu'on pourrait arriver à un certain consensus, mais le compromis, ça veut dire compromission. Donc quand on fait une compromission, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui perd. On devrait arriver plutôt à un consensus et arriver à sortir surtout ce deuxième pilier de tout l'aspect capitaliste, gestion de finances, de choses comme ça, et plutôt revenir à une gestion comme l'AVS, qui est beaucoup plus solidaire.
Manfred Buller, vous avez été interpellé tout à l'heure par Jacques-André Maire en disant l'UDC qui protège les petites gens, mais qui au fond a d'autres intérêts dans l'affaire. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à la cohérence de votre discours ?
Non, alors ça c'est de la politique politicienne, je crois que de vouloir à tout prix mélanger la question de l'égalité salariale avec la question de l'AVS, c'est pas forcément le bon lieu pour le faire ici, parce que là on parle vraiment d'un secteur d'activité et de ressources des gens, les retraites qui est la troisième partie, le troisième âge après la vie professionnelle. Les problèmes que l'on peut encore rencontrer au niveau de l'égalité salariale sont en train de se résoudre, et je pense que là, on a suffisamment aujourd'hui d'actions qui ont été faites. On n'a pas besoin d'encore mélanger la problématique des retraites dans ce dossier-là. Les femmes sont en train de nous rattraper, fort heureusement. Et puis je crois qu'elles sont aussi dans un niveau de formation qui maintenant est même parfois supérieur en moyenne aux hommes. On voit que dans beaucoup de filières universitaires, par exemple, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et donc ce problème-là est en voie d'être résolu. Je pense que c'est un petit peu exagéré de vouloir le mettre en avant ici.
Concernant l'inégalité salariale, donc Madame Sommaruga a proposé un projet pour essayer d'inciter les employeurs à veiller à ce qu'il y ait plus d'égalité au niveau des salaires, mais le problème c'est que c'est jamais contraignant. C'est toujours les travailleurs qui ont des contraintes, jamais les employeurs. Donc Madame Sommaruga, elle est quand même du PS et c'est quand même elle qui devrait faire bouger un peu plus les choses au niveau du Conseil fédéral.
On va parler d'économie maintenant et je vous ferai réagir ensuite les représentants de l'économie qui ne sont pas tous du même avis sur la question. On va vous proposer d'écouter deux points de vue inverses. Donc, tout d'abord, Florian Nemetti, directeur de la Chambre neuchâteloise de commerce et d'industrie. Il nous dit pour quelles raisons son organisation recommande le oui, mais du bout des lèvres.
Je dirais deux choses. La première, c'est qu'il est extrêmement difficile de faire passer des réformes dans ces domaines. On l'a vu, la dernière a passé en 1997. Donc si celle-ci devait être rejetée, il y a fort à craindre qu'on mette encore beaucoup de temps pour revenir avec un nouveau projet, sans avoir la garantie qu'il soit meilleur que celui-ci. Et ce temps-là, c'est un temps qui risque de passer vraiment au détriment des assurances en question, parce que, ben voilà, on sait que la situation se détériore, que des mesures doivent être prises de toute manière, que celle-ci soit bonne ou pas, un jour il faudra prendre des mesures. Donc c'est ça, d'abord ce premier élément. Et le deuxième, c'est qu'on constate qu'il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de faire passer des éléments de ce paquet pris séparément. Puisque, par exemple, la baisse du taux de conversion avait été balayée devant le peuple et qu'il n'était pas possible de faire passer une augmentation de l'âge de la retraite. Là, nous avons un paquet qui trouve des compensations politiques à chacun de ces éléments et c'est quelque chose qui, a priori, devrait être plus équilibré aux yeux de la population suisse.
À vous entendre, Florian Nemetti, on a presque l'impression que vous dites en fait un grand oui.
Non, parce qu'évidemment qu'il y a aussi il y a des compensations qui ne sont pas forcément des éléments plaisants. Par exemple, on n'est pas complètement convaincu que les aspects de solidarité générationnelle qu'on essaye d'évacuer dans le paquet, ça soit des choses forcément positives. Il y a des éléments au niveau des charges patronales qui vont augmenter. Il y a la TVA à terme qui va aussi augmenter. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a que des aspects positifs, mais évidemment qu'une situation comme celle-là, elle nécessite un assainissement. Il y a des mesures douloureuses. Donc, la question est plutôt de dire, pragmatiquement, est-ce qu'on a un équilibre suffisant de manière à atteindre l'objectif sans faire trop de dégâts.
À l'inverse, la Société suisse des entrepreneurs recommande le non. On va entendre maintenant Blaise Clerc qui nous dit pourquoi.
C'est d'après nous une pseudo-réforme injuste qui pénalise les retraités actuels et qui crée, à notre sens, une AVS à deux vitesses. C'est en même temps une augmentation prévue de 70 francs pour les retraités qui en bénéficieront dans quelques années, mais on laisse de côté ceux qui en ont besoin aujourd'hui, donc les seniors qui actuellement auraient besoin aussi de cette manne. Mais c'est pas seulement ça, c'est globalement en même temps, c'est une solution qui, à notre avis, d'après nos analyses, devra être rediscutée très tôt dans le temps, en 2025. Donc si vraiment ça avait été une bonne réforme, il y aurait les mesures qui sont envisagées dans ce projet, elles devraient être beaucoup plus importantes, je dirais même de majorer les cotisations à 1,5% ou augmenter la TVA de 2 ou 3% pour vraiment aller au-delà de ces 13 ans. Donc on plaide plutôt pour un refus de ce paquet de mesures pour envisager un réel paquet de mesures qui entrerait, je dirais, de manière échelonnée et qui répondrait à une vraie pérennité de ce problème de l'AVS et de la prévoyance.
Quitte à perdre quelques années encore et à laisser la situation des deux piliers s'aggraver ?
Écoutez, je pense que si le peuple refuserait la prévoyance 2020 telle qu'elle est proposée, clairement, il serait donc contre l'augmentation des rentes, il serait contre cette combinaison premier pilier, deuxième pilier, et on pourrait dès lors, avec ce nom très clair, mettre un projet disponible déjà en 2021, reprendre l'ensemble, et je pense que on arriverait à proposer dans 2-3 ans un projet qui lui serait pérenne et qui permettrait d'avoir une réelle prévoyance, mais qui durerait pas seulement une dizaine d'années, mais qui durerait 15, 20, 30 ans.
Roberto Pérez, vous l'avez entendu comme nous, hein, l'économie divisée avec d'un côté une pragmatisme et fatalisme, comme on l'appelait, on ne sait pas, et de l'autre, la conviction qu'il faut reculer pour mieux sauter.
J'ai entendu un projet pérenne, en fait, je vois mal comment une révision de l'AVS pourrait tenir dans des mesures pour les 30 prochaines années. Je veux dire, on ne sait pas l'état de l'économie, on ne sait pas, on connaît plus ou moins la pyramide démographique, on connaît l'avancement de l'âge, mais on ne peut pas s'imaginer de faire maintenant une retraite qui va durer 30 ans. Toutes les assurances sociales se révisent chaque 5, 6, 7 ans, l'AI, l'assurance chômage, donc vouloir mieux préparer pour faire une réforme soi-disant plus pérenne, c'est vraiment une utopie. Depuis 1917, Prosenectutes s'engage pour les seniors. Depuis 1917, nous fêtons 100 ans et nous nous sommes engagés pour l'AVS, nous nous sommes engagés pour le deuxième pilier et nous nous engageons pour cette réforme car justement, elle permet vraiment de garantir le niveau des rentes et elle permet pour les 10 prochaines années de faire en sorte que les fonds ne s'effritent pas, qu'il n'y ait pas des trous pour qu'après, des mesures beaucoup, beaucoup plus drastiques soient prises en considération.
Mais de toute façon, en acceptant cette réforme de PV 2020, eh bien, ça va mettre à mal d'autres assurances sociales, le chômage, parce que de toute façon, pour travailler jusqu'à 65 ans, c'est déjà difficile de trouver du travail à partir de 55 ans. Et ensuite, aussi les prestations complémentaires, bon là il y aura l'effet de seuil et à mon avis c'est pas le bon plan, on peut pas voir non plus seulement le PV 2020 seulement sous l'aspect de la rente. Et je rappelle aussi que les personnes retraitées on joue un rôle très important aussi entre générations, et puisque c'est elles qui souvent gardent les petits-enfants et s'occupent du soutien aux proches malades. Donc, j'entends, c'est, quand on parle des baby-boomers comme quelqu'un qui a un poids pour les jeunes, je pense que sans eux, avec toutes les places de crèche qui manquent actuellement en Suisse, je pense que ce serait difficile de régler les choses autrement qu'avec leur apport personnel.
Jacques-André Maire, sur cette question aussi des travailleurs âgés qui trouvent déjà difficilement du travail aujourd'hui, ça ne pourrait qu'empirer avec une retraite flexible vers le haut.
Alors malheureusement, c'est une réalité très très difficile, effectivement. Et je tiens à dire aussi que dans le paquet de réformes, il y a une mesure pour les travailleurs âgés qui malheureusement perdent leur travail à 58 ans et plus, c'est qu'ils pourront garder leurs acquis de caisse de pension, garder des rentes après l'âge de référence de la retraite. Ça, c'est un élément nouveau très important parce que jusqu'à aujourd'hui, après 58 ans, si on perd son travail, on part avec son capital qu'il s'agit de gérer. J'aimerais juste revenir sur la pérennité de la réforme. 13 ans, on garantit le niveau des rentes pour 13 ans, on garantit le fonds de réserve AVS pour 13 ans. C'est très important parce que, comme l'a dit mon collègue Pérez, effectivement, jusqu'à dans les années 2000, l'AVS a été réformée tous les 5-6 ans. Et là, on est en panne maintenant depuis bientôt 20 ans et il faut absolument faire quelque chose. Sinon, ce qui va arriver, c'est qu'on va être au pied du mur et le plan B, on le connaît, le plan B de la majorité de droite. Je rappelle qu'il y a quand même une majorité très nette au Parlement à droite. Eh bien, on a entendu dans les débats, c'est supprimer l'indexation des rentes, c'est supprimer les rentes pour veuves et pour enfants, et puis c'est aller vers un âge généralisé de référence à 67 ans. Ça a été défendu jusqu'à la fin des débats, et il ne faut pas cacher la réalité aux électeurs. C'est bien ça qui nous attend si on dit non à cette réforme.
Manfred Buller, est-ce que c'est vraiment ça, le plan B? C'est des mesures plus drastiques, comme la retraite à 67 ans?
Non, alors absolument pas. Je crois que là, on passe
sur la muraille. Vous l'avez défendu jusqu'au bout, il ne faut pas avoir un double langage.
Je pense que ce qui a été proposé au Parlement, c'est un mécanisme où finalement l'âge de la retraite tient compte de l'évolution de la société, notamment de l'espérance de vie, et puis finalement des revenus de l'AVS. Si l'AVS est à l'équilibre et que le fonds ne diminue pas jusqu'à un certain point, l'âge de la retraite ne bouge pas. Par contre, si on voit que, par exemple, l'espérance de vie augmente ou que les recettes diminuent parce qu'il y a moins de cotisants ou que sais-je, on pourrait imaginer un mécanisme qui ouvrirait une sorte de marge de progression qui pourrait varier de 3 mois chaque année, par exemple, en augmentant l'âge de la retraite petit à petit. Mais ce n'est pas du tout une retraite à 67 ans automatique. C'est juste de dépolitiser un petit peu cette question et puis de dire à la population simplement la vérité, si nous vivons plus longtemps, si nous avons moins de personnes par retraité qui payent des rentes, eh bien à un moment donné, ça va avoir un prix. Alors ce prix, soit on le paye sous forme de cotisations supplémentaires, sous forme de TVA supplémentaire, soit on dit, on accepte de travailler quelques mois de plus à terme. C'est, je crois, quelque chose qui est faire preuve d'honnêteté face à la population, et je pense que notre économie peut aussi trouver des ressources intéressantes auprès des retraités. Il y a peut-être des réformes à faire, notamment au niveau des cotisations de deuxième pilier, qui sont très élevées pour les travailleurs plus âgés. Peut-être qu'on pourrait lisser un tout petit peu ces cotisations pour que les travailleurs plus âgés soient moins chers, entre guillemets, pour les entreprises qui, parfois, pour cette raison-là, peuvent rechigner à les embaucher.
Par rapport à ce que disait M. Maire concernant les 13 ans d'assurance qui garantira la hauteur des rentes, on a vu... c'est tout à fait incertain, en fait, parce que en 15 ans, les rentes du deuxième pilier ont fondu de 20% à 40%.
Donc, sur la partie obligatoire, seulement.
Donc on ne sait absolument pas du tout qu'est-ce qui va se passer ces prochaines années.
Je vous propose de clore ce débat déjà, puisque le temps avance, et de toute manière, on ne va pas pouvoir faire le tour de ce paquet. On l'a compris aussi complexe, qui déplaît à certains, qui semble le meilleur des compromis pour d'autres. Toujours est-il que la votation a lieu le dimanche 24 septembre et que ce sera à vous, auditeurs, citoyens suisses, de vous exprimer. Ne manquez pas le rendez-vous, allez voter. La semaine prochaine, nous parlerons de l'autre objet principal, la sécurité alimentaire, qui sera soumise au vote. Merci à tous les quatre d'être venus dans Place Publique. Rappel des titres.
Merci, flash aussi.
Bonne soirée.
François Comte, c'est dans un instant.
Merci.
Place Publique.